du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence, place du Capitole. 97.9.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Présence Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, nous sommes très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe en ce vendredi. Dans quelques instants, on retrouvera la chronique verte avec Benoît Guillard depuis plus de 20 ans. François Coutant cultive sa ferme sur les coteaux de l'Astarac dans le Gers en s'appuyant sur les principes de l'agroécologie. Dans cette interview, il va témoigner d'un chemin fait d'observation, d'expérimentation et de respect du vivant. Ça sera écouté dans un instant au micro donc de Benoît Guillard, direction le département du Gers. Et puis la cité Saint-Pierre à Lourdes a fêté son 70e anniversaire en 2025, fondée par Jean Rodin en 1955. Immersion dans cette émission au cœur de cet espace d'accueil et de solidarité avec Anne Deloye qui nous donne rendez-vous à la cité. Elle sera entre autres avec Jérôme Congrand qui est le directeur adjoint de cette cité. Au cœur de ce magazine également, c'est évidemment la actualité avec à 12h30 le journal régional, mais pour le moment Lou de Neuville est d'ores et déjà avec nous pour les titres qui seront développés à 12h30. Lou de Neuville qui est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac.
La Fondation Notre-Dame lance son premier appel à projet national destiné aux aidants. Ce dispositif s'adresse à des associations locales déjà actives sur le terrain. Pour cette première édition, un sondage mené auprès d'un millier de Français a permis d'identifier des besoins prioritaires liés à l'écoute et la formation. Pour en savoir plus ou candidater, vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous rendre sur le site de la Fondation Notre-Dame. Le projet d'arrêté portant sur la restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac va être soumis à la consultation du public. En attendant la validation du gouvernement, le public a jusqu'au 5 avril pour s'exprimer sur le sujet, en se connectant au site internet du ministère des Transports. Le groupe aéronautique Daher a présenté de nouveaux avions TBM sur le site de Tarbes. Pour rappel, les TBM sont les avions monomoteurs les plus rapides du marché. L'année passée, le groupe Daher a livré son 600e avion de la série, un cap symbolique pour les ventes de cet appareil. Le Mamobile se prépare pour sa nouvelle tournée dans le Gers. Du 2 au 5 février, ce véhicule permettant le dépistage gratuit du cancer du sein se déplacera dans tout le territoire. Dès 50 ans et jusqu'à la veille de vos 75 ans, il est conseillé de prendre rendez-vous pour réaliser un examen complet. Bonne nouvelle, les skieurs du week-end vont pouvoir profiter de la neige fraîchement tombée sur les montagnes ariégeoises. Le col du Chioula, le plateau de Beille et la station des Monts d'Olm ont enregistré des chutes de neige allant jusqu'à 1 mètre. De bon augure pour la suite de la saison.
Merci Lou de Neuville, on vous retrouve à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. Je rappelle que vous faites partie donc de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Restez avec nous dans un instant, direction le département du Gers. On va aller dans l'Astarac rencontrer François Coutant qui cultive sa ferme sur les coteaux de l'Astarac sur les principes de l'agroécologie. Sur place, on retrouvera notre reporter, c'est Benoît Guillard.
Les podcasts de Radio Présence. Podcast de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Présence à Lannemezan. 92.2.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de mettre en valeur la parole d'agricultrices, d'agriculteurs qui sont engagés, qui incarnent un certain nombre de pratiques et qui expriment leur espérance face notamment à la situation actuelle, à la crise. Et donc, je suis actuellement avec François Coutan, qui est dans l'Astarac, qui habite à quelques pas de notre département des Hautes-Pyrénées, que je connais depuis longtemps, et qui a entamé, il y a déjà 20 ans et plus, une pratique d'agroécologie sur son exploitation. Et donc, je voulais partager un petit peu ce témoignage avec vous, chers auditeurs, et puis nous permettre justement de réfléchir sur les mutations en cours, sur les difficultés du monde agricole, et s'inspirer des témoignages d'un certain nombre d'agricultrices et d'agriculteurs sur nos territoires. Donc, François, bonjour. Peut-être deux mots de présentation.
Oui, bonjour. Donc, François Coutan, je suis agriculteur jeune retraité actuellement à Martiac, sud-ouest du Gers, pas loin des Hautes-Pyrénées, c'est tout à fait ça. Je suis marié, j'ai 4 enfants et je cède mon exploitation actuellement à mon gendre. Voilà, après, c'est tout un long cheminement.
Alors peut-être simplement, François, si vous pouviez nous présenter en quelques mots, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans cette démarche d'agroécologie? Qu'est-ce qui vous a inspiré?
Oui, c'est vrai qu'au départ, peut-être il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont incité à changer complètement. C'est parce que c'est vrai que moi j'ai repris une exploitation dans une situation financière très compliquée. Et on avait construit un lac pour s'en sortir, ce qui a très bien marché pendant 7 ou 8 ans, mais où on a vite connu la crise par rapport aux coteaux et l'érosion. Et c'est là qu'on a, avec l'accompagnement, c'est vrai, de l'ACUMA et je suis rentré au CETA Agrodoc, où on a complètement remis tout en route quelque part. On est reparti sur un chemin complètement différent parce qu'il n'y avait plus de rentabilité quelque part. C'était ça le but essentiel. Et après, je me dis, bon, après, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas le dire en quelques minutes si on veut aller par là. Mais bon, l'essentiel, c'était ça. C'est peut-être qu'on a connu la crise avant la crise. Et ça a été sans doute important.
Alors tout à fait, la crise avant la crise, mais concrètement, peut-être en deux mots, nous dire un petit peu qu'est-ce qui a vraiment changé quotidiennement dans votre pratique avec ce choix-là.
Ben, ce qui a changé, c'est bon, après ça se fait pas du jour au lendemain, parce que on a arrêté le labour en 1993. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Hein. Mais c'est vrai, quand on voit le résultat, je me dis, bon, c'est possible. Donc on a arrêté le labour, mais je le redis avec un accompagnement, parce que j'étais rentré au CETA Agrodoc, donc on avait les ingénieurs d'Agrodoc qui nous suivaient, on avait une réunion tous les 15 jours, parce que c'était en même temps qu'il n'y avait plus les GDA, donc les agriculteurs ne se retrouvaient plus. Et le gros problème pour moi, je dis aujourd'hui, de beaucoup d'exploitations, c'est que les agriculteurs ont été livrés à eux-mêmes. Ça n'a plus été les agriculteurs qui se sont retrouvés ensemble, c'est les techniciens, c'est quand il y a eu ce changement que les techniciens ont été financés par les coopératives plutôt que les chambres d'agriculture. Et là, ça a été l'inverse, c'est le technicien qui venait chez l'agriculteur. Et à partir de ce jour-là, il n'y a plus de développement vraiment et les agriculteurs n'ont plus ces échanges entre eux. Et pour moi, la cause aujourd'hui du mal-être quelque part, elle est en partie, bon c'est facile de le dire avec le recul, hein, mais bon c'est quand même très important. Mais si on veut parler un peu plus de l'évolution de mon exploitation, donc on a arrêté le labour en 1993 et après on a essayé pas mal de semi-direct. On a fait du semi-direct en conventionnel. À l'époque, on était en conventionnel, toujours dans mes coteaux, jusqu'en 2000 où on a avancé beaucoup plus vite le jour où on avait découvert la févrole. Et là, on a passé un peu la vitesse supérieure par rapport à l'augmentation du taux de matière organique. Les deux combinés, ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Et après, bon, en 2015, on se disait, parce qu'on avait quand même très bien maîtrisé, on commençait à très bien maîtriser les semi-directs sous couvert, avec une baisse d'intrants qui était énorme. Parce que même des années où on avait des très grosses févroles, on mettait plus de glyphosate. Les quantités d'azote étaient tombées de 2 sur pour du maïs, de 200 unités à 80 unités d'azote, parce que, ben, une févrole, il faut savoir qu'elle fournit quand même 300 unités d'azote, dont un tiers est disponible dans les 3 premiers mois. Et après, on a dit, bon, il faut aller plus loin, mais toujours parce qu'on était aussi en groupe, j'étais pas tout seul, hein. C'est ça, je le redis. on était trois ou quatre dans la CUMA à travailler un peu ensemble et au groupe de CETA, en plus on était au CETA ensemble. Et là on a dit bon, il faut améliorer. Quand je voyais la problématique du bio dans le Gers, je me disais bon ça, il faut faire quelque chose, c'est pas possible, parce que pour moi écologiquement c'était encore pire que le conventionnel. Quand on voyait tous ces labours, ces travaux du sol intenses en bio, et c'est là qu'on a dit bah, il faut qu'on essaie de trouver des solutions même pour le bio. Et c'est vrai que mes sept, huit dernières années, je me suis consacré à ça, à trouver des systèmes en bio sans toucher le sol presque. Et alors bon, après pour moi la cerise sur le gâteau, c'est mon gendre qui reprend, et en plus lui il est passionné quand même d'élevage et il a besoin d'élevage pour le transformer. Alors là on remet tout en prairie, oh, ben là c'est le top. Et après même aujourd'hui il vient de récupérer des terres, c'est une anecdote, mais des terres qui étaient labourées et irriguées depuis 30 ans là dans les coteaux. Et il me dit, mais pourquoi là ça pousse pas et là ça pousse? Et c'est vrai que pour tout expliquer, pour tout comprendre, voilà, c'est bon, c'est des petites choses, mais enfin aujourd'hui, c'est, on est quand même arrivé à 4% de matière organique sur 30 cm, alors qu'on a démarré à 1,7 en 1993, quoi. Et c'est, je vous garantis que le résultat, c'est pas le même. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à ces taux-là, on est capable d'être complètement autonome, hein. C'est tout à fait ça, hein. On n'achète aucun intrant, hein. C'est en plus de bio, alors là c'est sûr, il n'y a pas non plus de produits phyto, mais et on se rend compte que c'est capable. Et en plus, on est suivi encore par un groupe de pâturage sur non dynamique, INAVECO2, et qui nous dit bon sang, mais vous êtes vraiment dans la fourchette haute de production, quoi. Alors qu'on est dans les coteaux très raides du département. Mais on sort une production très importante quand même.
Alors on voit effectivement dans cette démarche telle que vous le témoignez, François, qu'elle a vraiment changé votre rapport au métier. Elle a dû changer aussi pour vous le sens du travail, tout simplement. Et puis le regard aussi sur les autres.
Ben, c'est vrai qu'il y a des fois, on dit nul n'est prophète dans son pays, mais parce qu'il y a des fois, ça fait quand même râler de voir l'évolution, quoi, autour de nous, qui n'avance pas assez vite, même si ça avance. Parce que quand même, je me dis, ça avance quand même. Parce que quand je vois les Févrols, nous, on a commencé à en semer en 2000. Et aujourd'hui, quand même, ça s'est bien vulgarisé. Bon, c'est sûr, il faut 15 ans, mais 15 ans après, quand même. Donc, c'est les petites graines qui se sèment. Et après tout, parce que tout ça, c'est quand même des quantités d'azote qui sont plus apportées. Et par rapport à l'écologie, c'est quand même important. Même si c'est pas si ça fait pas tout, c'est quand même très important. Et bon, après, c'est vrai que, mais moi, je suis plein d'espoir parce que je me dis, ça a été possible sur mon exploitation dans des coteaux très raides. Bon, c'est sûr, j'ai eu la chance d'avoir l'accompagnement, ça se fait pas tout seul. Mais bon, on a les solutions quelque part aujourd'hui. Je me dis, on a les solutions. Donc, c'est possible.
Et sur le plan économique, bon, par rapport à votre expérience, aujourd'hui, ça vous a apporté une certaine stabilité au niveau économique, moins de dépendance, sans doute, on l'a bien entendu, et puis plus d'autonomie.
Ah ben c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on prend l'exploitation, il y a 30 ans et l'exploitation aujourd'hui, même entre la dépendance au matériel, la dépendance aux intrants, la dépendance même à la main-d'œuvre extérieure, la dépendance même à tous les groupes, les coopératives et tout ça, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de construire un stockage en commun, en CUMA encore. Et on a fait un stockage en CUMA et aussi une fabrique d'aliments à la ferme en CUMA. Parce que c'est un peu la chaîne. C'est un peu... Et donc, si on veut aller par là, on est complètement indépendant aujourd'hui. Et en plus, on n'est pas. Avec les animaux, c'est encore pire parce que là, on ne met aucun intrant. Mais enfin, je vois mon frère qui est toujours resté aussi en culture. Mais c'est pareil, les intrants, c'est minime. Enfin, moi, quand on parle des intrants, c'est pas rien. Sur une exploitation de 100 hectares aujourd'hui, moi, on est passé en bio, on est passé quand même de 50 à 60 000 euros d'appro à 5 000 euros d'appro, quoi. Et aujourd'hui, on est à zéro. Ben, quand, c'est quand même différent. Enfin, il y a une approche quand même qui est complètement différente. Et c'est pas rien, quand même. Pour le psychique de la personne, quelque part. Parce que vous vous rendez compte, les risques qu'on prend, c'est bien moindre, quoi, quelque part.
Alors François, j'ai envie de vous poser cette question, puisque vous avez cette pratique de longue date et vous êtes un témoin de ce que peut être aujourd'hui pour votre exploitation agricole l'agroécologie. Est-ce que vous pensez que l'agroécologie peut être aussi une réponse collective aux crises agricoles actuelles ?
C'est sûr que de toute façon, quand on voit ce que le sol est capable de produire sans intrants, c'est là où... Quelque part, c'est phénoménal. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui fait aussi la rentabilité. Sachant que même par rapport au matériel, aujourd'hui, les puissances de matériel qui sont utilisées parce que le sol est dégradé. Alors que tous les agriculteurs vont vous le dire, hein, quand il y a eu une prairie de 10 ans, pour labourer derrière, mais ça se fait tout seul, et pour préparer aussi. Mais qu'est-ce qu'il y avait ? La seule différence, c'est parce qu'il y a un taux de matière organique qui est très important. Autrefois, comment ils faisaient ? Ils faisaient des très beaux maïs, même sans irriguer, derrière une prairie de 7-8 ans. Et c'est vrai qu'il y a sans intrants, sans irrigation. C'est pour dire que la structure du sol, c'est quelque chose de primordial et qui, quelque part, on le comprend facilement, quoi, qui rend une rentabilité bien plus importante parce qu'il y a, moins de charges. C'est même pas la rentabilité, c'est pas qu'on fasse plus de rendement et tout ça, mais c'est qu'on dépense beaucoup moins. Et alors après, bon, c'est sûr, le revenu, il y est ou il y est pas si ça nous coûte très cher.
Alors, cher François, on arrive à la fin de l'émission déjà, hein, ça passe vite, et c'est passionnant, mais on se connaît, je sais que vous êtes aussi investi dans l'église, sur le diocèse de Auch, en particulier dans le groupe Terre d'Espérance, je crois, et donc j'avais envie de vous poser cette question un peu plus spirituelle, un peu plus personnelle, savoir en quoi justement cette conversion et cette agroécologie, elle rejoint finalement vos convictions profondes, à la fois humaines et spirituelles.
Oui, bon, mais là, c'est quand même un sujet qui est un peu différent. Mais si, personnellement, c'est quand même parce que on œuvre quand même dans le bon sens, surtout quand on reprend là, la lecture du pape, là où d'autres aussi, c'est parce qu'on avait commencé à y travailler par rapport à ça, mais c'est rien n'a changé quelque part. On nous dit de prendre soin de la terre, quoi, notre terre-mère, et c'est vrai que c'est quelque chose quand même de très inspirant, quoi, et puis même de très rassurant. Enfin, c'est primordial, même dans notre groupe Terre d'Espérance, là, quand on a une personne qui est à Toulouse, là, sur la météo et tout ça, et quand on voit aujourd'hui même l'agriculture, l'influence qu'elle pourrait avoir sur le réchauffement climatique, je me dis, quelque part, il faut qu'on essaie d'y travailler, quoi, tout ça, enfin. Et c'est notre rôle en tant que chrétien de le divulguer, même d'en parler, même si c'est pas facile, même si on a quelque part toutes les instances qui sont à des fois contre nous. Mais il faut quand même le faire savoir, parce qu'il y a des solutions. Et c'est en tant que chrétien, il faut quand même essayer de parler, de le dire, et même si c'est ça notre rôle de chrétien, c'est de le faire savoir.
En tout cas, merci infiniment, cher François. Je pense que, effectivement, votre témoignage est magnifique dans ce sens où on voit bien qu'une dynamique comme celle que vous avez entreprise, c'est-à-dire l'agroécologie, n'est pas un retour en arrière. On est quand même dans une manière d'avancer, mais autrement, et avec la terre plutôt que contre elle, c'est ça, en résumé. Hein ? Alors voilà, chers auditeurs, je tiens d'abord à vous présenter à cette occasion, puisque c'est la première émission de l'année, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et puis je tiens à remercier aussi François Coutan pour ce beau témoignage d'espérance en tout cas, dans ces temps si difficiles que traverse le monde agricole. En tout cas, merci et à bientôt. Au revoir, François.
Au revoir.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Et j'ajoute un remerciement, un merci à Benoît Guillard, voilà, qui a réalisé ce reportage avec François Coutang, donc, qui cultive sa ferme sur les coteaux de l'Astarac. Allez, restez avec nous, direction dans un instant la librairie de Tournai avec Frère Martin et Anne-Rose Jankovic. Et puis à 12h30, l'actualité régionale sera de retour avec Lou de Neuville.
Des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage.
Zao de Sagazan à l'instant avec la symphonie des éclairs. On poursuit cette émission avec notre rendez-vous avec la librairie de Tournaille.
Radio Présence à Sévrac-le-Château, 102.3. Coup de cœur en librairie, frère Martin de l'abbaye bénédictine de Tournaille.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour chers auditeurs et vous tous qui nous écoutez via le site de Radio Présence.
C'est reparti pour une nouvelle chronique littéraire. Nous allons parler d'un livre de Maude Fontenoy, L'océan source de vie, protégeons notre mère nourricière. C'est un livre qui a attiré votre attention parce que c'est un livre pédagogique sur ce que l'océan représente, sur tout ce qu'on peut découvrir dans les océans.
Oui, mon attention a été attirée sur ce livre parce que Maude Fontenoy avait été interviewée au mois de juin 2025. Pour ceux qui se rappelleront, il y avait la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, voilà, dans notre pays. Et donc, ce livre avait été un petit peu mis en avant. Du coup, je l'ai regardé de plus près, je l'ai lu et j'ai trouvé qu'il était intéressant parce qu'il nous... Il nous apprend beaucoup de choses, c'est facile à lire, mais à la fois on apprend beaucoup de choses sur l'océan, ce qui se passe sur les poissons, sur la végétation dans l'océan, et ce n'est pas qu'un regard négatif, même s'il y a des problèmes, mais il y a aussi des ébauches de solutions qui nous invitent à regarder autrement et à aller plus loin.
C'est pas un plaidoyer ?
C'est pas un plaidoyer, c'est une... Elle prend des thèmes... Et sur la pêche, les algues, l'oxygène dans l'océan, voilà, elle dit ce qui se passe et elle invite à regarder des façons de faire autrement. Et surtout, elle s'appuie beaucoup sur des travaux de chercheurs qui ont découvert d'autres moyens d'explorer et d'exploiter l'océan.
L'océan, c'est quand même un milieu, un univers fascinant. Il y a un côté mystérieux dans l'océan, dans le fin fond de l'océan.
Oui, surtout ce qu'elle nous dit, et je crois que peut-être, chers auditeurs, je ne sais pas quelle est l'idée que vous en avez, mais c'est qu'en fait, la place de l'océan est bien plus importante que la Terre.
Et elle nous dit surface,
que voilà. Et elle nous dit que cet océan, si on ne se rend pas compte, c'est en fait le poumon de notre planète. Et c'est là où se passe beaucoup de choses pour absorber le gaz carbonique, pour la création de l'oxygène. Et puis surtout, dans l'océan, il n'y a pas que les poissons et il n'y a pas que l'eau. Il y a toute la végétation, les coraux qui en fait représentent juste quelques pourcents de l'océan et qui en fait ont une importance incroyable pour ce qu'ils font.
Donc il y a une urgence à en prendre soin et c'est un peu ce qu'elle dit dans son livre.
Voilà. Et puis surtout, elle invite par exemple, ce qui est intéressant, c'est le chapitre sur la pêche. Bon voilà, ben, on entend beaucoup parler de pêche, manger peut-être moins de poissons, mais finalement elle dit aussi qu'en fait, à partir des poissons et de tout ce qui est pêché, on fait beaucoup de nourriture, même pour les animaux. Donc voilà, peut-être comment voir les choses autrement, quoi. Et puis surtout, pour la pêche de certains poissons, ben, moi ce que j'ai découvert, peut-être nos auditeurs le savaient, c'est que il y a des poissons qui sont saisonniers, donc il ne faut pas les pêcher toute l'année.
Oui.
Il faut respecter leur cycle où ils se reproduisent et tout, quoi. Éviter peut-être aussi les très grandes compagnies qui ont des immenses bateaux et qui, du coup, pêchent d'autres poissons, en blessent certains. Enfin, voilà, elle invite vraiment un autre regard et une autre façon de faire.
Donc l'objectif, ce n'est pas de pointer du doigt les, des coupables ou de faire culpabiliser, mais plutôt de nous inviter à contempler ou à regarder différemment la place que nous avons et que nos gestes ont dans cette chaîne-là, et notamment dans l'océan.
Oui, tout à fait, parce qu'elle rejoint notre quotidien et elle nous invite à des choses pratiques pour faire attention, pour respecter l'océan. Et puis surtout, elle dit ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'océan va nous donner un océan de solutions pour avancer. Et tout ce qu'on peut en tirer au niveau de la médecine, et même, il y a beaucoup d'applications, par exemple, d'algues et même dans le micro-plancton et tout ça, on peut faire beaucoup de choses pour notre industrie ou des petites entreprises.
En tous les cas, c'est un livre qui vous a plu.
Oui, et puis surtout qui nous apprend beaucoup de choses et qui nous ouvre un regard. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé important de le partager avec vous. Parce que ben, je crois qu'il y a beaucoup de possibilités qui ne sont pas tout à fait présentes à notre esprit.
Vous pouvez en donner une ou deux est-ce que vous avez
l'utilisation des algues, oui, c'est impressionnant tout ce qu'on peut faire avec les algues.
Par exemple,
des tissus, pour l'alimentation de certains animaux, et même pour la médecine. Il paraît qu'avec certaines algues, on va faire des choses pour les pansements. Enfin, c'est des choses incroyables, quoi.
On pourrait peut-être faire les tenues des moines bénédictins de Tournai avec les algues.
Peut-être, oui.
Est-ce qu'il y a autre chose dans ce livre, l'océan source de vie, protégeons notre mère nourricière? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont interpellé? Parce que quand on voit le titre, on se dit si on n'a pas le pied marin, si on n'habite pas au bord de la mer, on peut se dire c'est loin et de toute façon, comme la mer n'est pas en face de ma maison, je peux rien faire.
Oui, mais justement, c'est qu'elle dit qu'en fait, toutes nos eaux usées et tout ce qu'on fait avec, par exemple, les déchets de plastique et tout, il y a un moment, ça va arriver, les rivières vont jusqu'à la mer et voilà. Et donc, c'est pour ça que si on commence à respecter nos ruisseaux dans nos campagnes, nos rivières, eh bien, c'est derrière l'océan qu'on va protéger.
Oui, donc il y a aussi
parce
une question
que l'océan va devoir absorber tout ce qui arrive par tous les ruisseaux et toutes les rivières.
Donc il y a aussi une affaire de transmission des bonnes pratiques. Et c'est pédagogique en fait. C'est un livre un peu avec une pédagogie
derrière. Vraiment, c'était intéressant parce qu'on apprend quoi.
Maud Fontenoy, l'océan source de vie, protégeons notre mère nourricière. C'est un livre paru aux éditions L'Observatoire. C'est un livre que les jeunes peuvent lire. Les jeunes, ils sont très soucieux de ces questions écologiques.
Tous âges.
À tous âges. Allez, et c'est un livre, bien sûr, disponible à la librairie de l'abbaye Notre-Dame de Tournai. Merci beaucoup, frère Martin. On vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle chronique, un nouveau livre.
Merci à vous et puis à bientôt.
Voilà, et l'abbaye de Tournai se trouve dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Merci à frère Martin et merci aussi à Anne-Rose Jankovic. Allez, dans un instant, direction Lourdes. La cité Saint-Pierre à Lourdes a fêté son 70e anniversaire en 2025, fondé par Jean Rodet en 1955. Immersion au cœur de cet espace d'accueil et de solidarité dans un instant avec Anne Deloy.
Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living. Day after day, life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi. Et en équilibre, moi je vis.
écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire.
Et c'est en musique que nous arrivons tranquillement à 12h30. Et à 12h30, c'est le moment de faire un point sur l'actualité régionale avec Lou de Neuville qui nous rejoint. Elle fait partie de l'école de journalisme et de communication de Blagnac.
La Fondation Notre-Dame lance son premier appel à projet national destiné aux aidants. Ce dispositif s'adresse à des associations locales déjà actives sur le terrain. Cette année, le nouveau fonds des aidants financé par le grand public et des mécènes a été doté de 600 000 euros. Pour cette première édition, un sondage mené auprès d'un millier de Français a permis d'identifier des besoins prioritaires liés à l'écoute et l'information. Des groupes de parole, ateliers collectifs ou tiers-lieux seront mis en place. À cela s'ajoutent des formations en présentiel ou distanciel sur l'évolution de la maladie et l'identification des symptômes de l'épuisement. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 janvier sur le site de la Fondation. Le projet d'arrêté portant sur la restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac va être soumis à la consultation du public. En novembre dernier, les préfets de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne ont présenté des propositions relatives à une approche équilibrée entre les partenaires institutionnels, économiques et associatifs, et ce, devant des associations de riverains vivant à proximité de l'aéroport. Parmi les mesures retenues, la principale prévoit l'interdiction de programmer un vol commercial entre 23h et 6h. En attendant la validation du gouvernement, le public a jusqu'au 5 avril pour s'exprimer sur le sujet en se connectant directement sur le site internet du ministère des Transports. Le groupe aéronautique Daher a présenté, lui, de nouveaux avions TBM sur le site de Tarbes. Pour rappel, les TBM sont les avions monomoteurs les plus rapides du marché. Cette dernière version établit un nouveau standard pour les pilotes et passagers. Elle intègre également des commandes de cockpit intuitives et un concept de cabine améliorée pour maintenir l'avantage concurrentiel du TBM. L'année passée, le groupe Daher a livré son 600e avion de la série TBM-900, un cap symbolique pour les ventes de cet appareil. Le Mammo Mobile se prépare pour sa nouvelle tournée dans le Gers. Du 2 au 5 février, ce véhicule permettant le dépistage gratuit du cancer du sein se déplacera dans tout le territoire. Depuis son lancement, près de 1800 mammographies ont été réalisées dans 36 communes. Dès 50 ans et jusqu'à la veille de vos 75 ans, il est conseillé de prendre rendez-vous pour réaliser un examen complet. Bonne nouvelle, les skieurs du week-end vont pouvoir profiter de la neige fraîchement tombée sur les montagnes ariégeoises. Le col du Chioula est désormais ouvert à 50% avec une hauteur de neige qui devrait atteindre près de 70 cm. Du côté du plateau de Beille, les amateurs de descente pourront dévaler les pistes sur une couche de neige proche du mètre. Et toujours dans les Pyrénées ariégeoises, la station des Monts d'Olme ouvre ce vendredi soir 90% des remontées mécaniques du domaine. De bon augure pour la suite de la saison.
Effectivement, merci Ludoville. Voilà, je rappelle que vous êtes étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. La cité Saint-Pierre à Lourdes a fêté son 70e anniversaire, c'était en 2025. Dans un instant, eh bien, on a rendez-vous avec Anne Deslois au cœur de la cité Saint-Pierre, à cet espace d'accueil de solidarité avec ses invités. C'est dans moins d'une minute.
Présence à Auch, 89.6.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Solidairement Vôtre. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu unique, la cité Saint-Pierre à Lourdes. Beaucoup de nos auditeurs connaissent, mais il y a peut-être encore quelques-uns qui ne connaissent pas. Donc un espace d'accueil, de solidarité fondé par le Secours catholique. Et aujourd'hui, nos invités sont Jérôme Cangrand.
Bonjour Anne, bonjour à nos auditeurs.
Jérôme est directeur adjoint de la cité Saint-Pierre. Et puis Ricardo, mais excusez-moi Ricardo, j'ai oublié votre nom de famille.
Colia, C-O-L-I-A.
Colia. Alors Ricardo, bonjour, vous, vous êtes chargé d'animation, coordinateur de projet. Enfin, on va découvrir un peu plus, parce que vous aurez l'occasion de nous donner aussi votre témoignage personnel au cours de cette émission.
Bien sûr, merci.
Alors, cette année, la cité Saint-Pierre a vécu un événement important, puisque c'était le 70e anniversaire. C'est un cap important. Jérôme, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler qu'est-ce qu'a voulu Monseigneur Rodin quand il a créé la cité Saint-Pierre en 1955?
Alors 70 ans, c'est long et c'est court à la fois, donc il faut se transposer en 1955. Monseigneur Rodin est à l'époque secrétaire général du Secours catholique. Aujourd'hui, on est toujours un établissement Secours catholique.
Donc au niveau national.
Au niveau national, absolument. Et à l'époque, Monseigneur Rodin avait une très grande dévotion mariale. Il venait très souvent à Lourdes et il a été frappé par des gens qui n'avaient pas les moyens de se payer l'hôtel à Lourdes pour venir en pèlerinage et qui des fois dormaient dans le sanctuaire sur les bancs qu'il y avait à l'époque. Le sanctuaire à l'époque était ouvert 24 heures sur 24. Il a été aussi frappé à la gare par des personnes qui avaient pris le train de nuit à deux reprises sans pouvoir dormir à Lourdes. Pour pouvoir amener en pèlerinage toute une famille, il s'est dit, il faut faire quelque chose.
Donc, il ne pouvait pas dormir, c'était pour des soucis financiers?
Soucis financiers, essentiellement. Donc, il s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. C'est important pour les gens de vivre cette dimension de pèlerinage. Et il faut rendre ce pèlerinage à Lourdes possible pour tous. Qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas. Donc, c'est comme ça qu'est créée la cité Saint-Pierre.
Alors, 70 ans après, comment vous êtes encore fidèle à cet esprit de Monseigneur Rodin?
Eh bien, on va dire que Monseigneur Rodin nous avait donné un peu les clés de la maison, en fait. Donc, un bénévolat, donc il faut. On est un domaine de 38 hectares, donc c'est gigantesque. 220 chambres, 440 places d'hôtellerie et de restauration. Donc, Monseigneur Rodin, dès le départ, il nous a dit, mais pour pouvoir accueillir toutes ces personnes, bien sûr, il y aura quelques permanents, mais c'est aussi, on compte sur beaucoup de bénévoles. Donc, chaque année, on a plus de 1000 bénévoles qui viennent se relayer ici pour assurer toutes les fonctions d'hôtellerie, pour pouvoir faire fonctionner ce grand domaine et assurer un accueil convivial et sympathique pour tous ces pèlerins.
Pour marquer le 70e anniversaire, je suppose que tout au long de l'année 2025, vous avez organisé différents événements. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quels ont été vraiment les temps forts de ce 70e anniversaire?
Alors, 70 ans, ça se fête. Hein. On a démarré ces 70 ans, enfin quelques mois avant, en recevant ici tous les évêques de France. Mais c'est surtout Ricardo qui peut nous en parler plus en détail un petit peu de cet événementiel qui a été assez important.
Ben oui, je dirais que, autant qu'on n'est pas loin de Lourdes, on a profité du thème de l'année de Lourdes, le thème pastoral, donc pèlerin d'espérance. Et comme tous les ans d'ailleurs, on a créé cette fresque de pèlerin d'espérance. On a voulu faire une manière que la cité Saint-Pierre aussi soit présente avec ses 70 ans. Donc on a déjà décliné sur « Depuis 70 ans, pèlerin d'espérance ». Témoin de résurrection. Et le point de départ, c'était effectivement, comme disait Jérôme, avec l'Assemblée des évêques, et on a invité à l'époque les présidents des évêques de France, donc Monseigneur Moulin de Beaufort, venir inaugurer cette fresque, chose qui a été faite le 4 avril. Et en même temps, on a eu la chance d'avoir aussi les équipes du Rosaire, qui étaient présents dans notre belle cité, qui fêtaient eux aussi les 70 ans. Donc on a fait toute une fête ensemble pour commencer les 70 ans de la cité. Ensuite, bien sûr, on a essayé de vivre cet anniversaire avec les différents groupes du Secours catholique. C'est là qu'ici on appelle les voyages d'espérance. Donc ce sont des personnes en précarité accompagnées par des bénévoles qui viennent de toutes les délégations de France et qui ont vécu ici des beaux moments de partage, comme disait, et de convivialité, de fraternité. Et souvent, beaucoup de ces personnes qui viennent, ils deviennent à leur tour des bénévoles. Après, bien sûr, on a fêté avec une petite dizaine de jours, les Laudato si. Donc on l'a mis dans cette intégration des 70 ans parce que la cité, j'invite les personnes qui ne le connaissent pas de tous les départements, même département à côté, de venir voir comme c'est tellement belle qu'on ne peut pas la gâcher. Donc c'est quelque chose de préservé. Donc les Laudato si, on l'a fêté aussi avec l'Assemblée Générale du Secours Catholique qui est venue ici pendant le mois de juin. Et après, le mois de juillet, août, on a eu des rassemblements des jeunes bénévoles des années 2000 qui souhaitaient revenir. Et en point d'orgue, je dirais, c'est le 1er août 1955, c'est la date d'inauguration officielle hein, de la cité Saint-Pierre, parce que la cité Saint-Pierre, il avait déjà accueilli à partir du mois d'août, de avril, pardon, 1955, le premier groupe qui venait de Nancy à la cité Saint-Pierre. Et donc, on l'a fêté aussi avec les réseaux Saint-Laurent, les réseaux Saint-Laurent qui fêtaient ses 20 ans. Donc, on a dit que cette année, on a fêté les 50 plus 20 avec les réseaux Saint-Laurent qui étaient là avec nous. Et puis, on a terminé un peu cette fête des 70 ans, les mois d'octobre, avec une clôture assez sobre, mais en plantant un arbre qui était offert par un partenaire de la cité Saint-Pierre, tout tranquillement, si je ne me trompe pas, c'était le 7 octobre, donc juste après la fin du temps de la création. Donc on a cherché de vivre aussi dans la pastorale de Lourdes, tous les groupes qui ont accompagné dans ce thème vraiment pèlerin d'espérance, témoin de résurrection.
En vous entendant, Ricardo, on comprend bien que toute cette année 2025, c'était vraiment un moment de fête et de mémoire. Et je suppose que les pèlerins d'espérance, témoins de la résurrection que vous recevez, bien à leur retour chez eux, racontent ce qu'ils ont vécu et puis peuvent peut-être donner envie à d'autres de venir.
Mais c'est ça que nous on espère, c'est pas pour avoir plus de personnes, mais parce que les personnes y retrouvent aussi un sens à leur, je dirais, existence. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de pauvreté, de fragilité, ils sont tellement vastes, les domaines. On peut avoir un manque de matériel, mais on peut avoir aussi un manque de personnes proches, de quelqu'un qui est là, de manque moral aussi. J'ai oublié aussi une petite chose que j'aimerais bien, c'est que au tout début de l'année, on a fait une session Jean Rodin. Parce que Jean Rodin, comme il disait Jérôme, t'es le créateur de la cité Saint-Pierre, je dirais aussi du Secours catholique, mais je laisserai Jérôme en parler, une manière que les pères, aussi Luc de Brule, qui a animé cette session, c'était vraiment très enrichissant. On va la refaire aussi le mois de février prochain. Donc voilà.
Merci Ricardo. Jérôme, un petit mot ?
Oui, mais je rebondirai sur ce thème développé par le sanctuaire, bien sûr, mais qu'on s'est approprié de témoins de résurrection, hein, comme on parlait de l'espérance. En fait, ici, on compte plus le nombre de personnes qui sont venues, qui pouvaient connaître la rue, qui pouvaient connaître la pauvreté morale ou financière, et qui, en fait, à travers une expérience de voyage de l'espérance, de ces pèlerinages organisés par le Secours catholique, se sont relevés. Et même eux, derrière, des fois, sont devenus bénévoles. On en connaît ici, même qui ont déménagé à Lourdes et qui sont des bénévoles réguliers de la maison. Et on a tellement vu ces résurrections chez ces personnes-là que ce thème de l'espérance prenait tout son sens cette année pour ce 70e anniversaire.
Merci Jérôme, merci Ricardo. Vraiment, on a, à travers vos paroles, on entend combien ce lieu est un lieu de fraternité, est un lieu de solidarité, un lieu où on renaît, où on vit une certaine résurrection. Alors, à une prochaine fois, merci encore.
Merci à tous.
Merci.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Présence.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Présence dans la vallée du Lot. 92.5.
On ne retient pas l'écume dans le creux de sa main.
reste rien d'une bougie qui s'allume. Tu peux encore décider du chemin, de ton chemin. Crois-tu que tout se résume au sel d'entre nos doigts, quand plus léger qu'une plume, tu peux guider tes pas sans tristesse ni amertume. Avance et avance, puisque tout s'en va, tout s'en va.
Dans la cité mariale, 96.
L'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants, écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Pierre Lecauze. Pierre Lecauze est un romancier, poète, essayiste, qui a passé une partie de sa jeunesse à Toulouse, où il a suivi des études de mathématiques, puis de philosophie. Mais la découverte de la littérature, les voyages, notamment vers le désert et ses étendues de sable qui dialoguent avec le ciel, où l'univers urbain, avec ses rumeurs et ses lumières, l'oriente vers l'écriture et deviennent ses sources d'inspiration favorites. Ses premiers textes, des proses poétiques urbaines publiées en 1993 dans la prestigieuse Nouvelle Revue Française, témoignent de cette imprégnation de l'errance et de la lumière de cette grande ville du Sud qui s'étale sur les deux rives d'un fleuve. Pierre Lecauze est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, romans, récits de voyage, recueils de nouvelles et essais. Il se consacre à la rédaction d'un cycle, L'Europe et la profondeur, dont 15 volumes sont déjà parus. Désormais retiré dans un village de Dordogne, il vient de publier son dernier polardoc, Le Tueur de Garonne, ainsi qu'une pièce de théâtre, Soldats et jeunes filles souriants, chez le même éditeur. Il est aussi l'auteur d'un recueil, L'autre versant du jour, qui a obtenu en 2007 le prix Prométhée de la nouvelle. Le grand raffinement de son écriture et sa virtuosité poétique s'expriment ici dans l'évocation d'une promenade le long des quais de la Garonne, un soir d'été. Le soir, un dernier rayon laissait venir une cité d'or au fond de l'espace. Le silence roulait par-dessus les toits comme un océan invisible. C'était l'heure où je ressortais enfin, longeant la courbe frissonnante des arbres du quai. Quelque chose bougeait à peine entre leurs feuilles, quelque chose qui s'était mis en marche du fond du temps et envahissait maintenant les rues. Sans doute n'étais-je qu'un passant, qu'un moment de cette ville, mais un moment incluant aussi l'éternité, l'impensable dimension où les mots depuis toujours sont en route. Et brusquement, c'était comme si le temps s'était entrouvert devant moi, comme si je voyais à travers son épaisseur. En quelles années lointaines avais-je déjà contemplé ces maisons, ces arbres, ce fleuve coulant dans le soir mauve? En quelle autre vie, peut-être, m'étais-je promené tout un été durant dans la même cité fantôme? La faille entre les mondes était là, elle s'ouvrait et se refermait sans cesse, comme une porte qui bat au vent fou, comme un œil rouge qui cligne. Alors je descendais le long des eaux, j'allais m'adosser contre la brique chaude de leur haut parapet, observant comment la lumière qui se retirait faisait tourner le vase sans défaut de la ville. Il y avait toujours un moment où, avant de basculer, la journée semblait s'immobiliser au bout de sa course, faisant miroiter une à une ses facettes de nacre. Tout se rassemble alors dans une ultime bulle de couleur, une sphère parfaite qui contiendrait le monde et serait contenue par lui. Tandis que la cité se répandait dans le soir, cette bulle paraissait se détacher et surnager au-dessus du temps comme un ballon flottant à la surface des eaux. Ponts, quais, arbres, clochers tremblaient un instant au doigt du vent solaire, puis ils se dissolvaient et le ruban lumineux du fleuve entraînait tout vers la nuit. Seule la poésie, peut-être, m'aurait permis de venir habiter cette sphère d'éternité, où les choses sont enfin là devant nous, ardentes et muettes, comme des fleurs, où elles ne glissent plus entre nos mains, entre nos phrases. Seule la poésie m'aurait permis de voir le rien, l'invisible plan sur lequel prennent place toutes choses et leur contraire, villes, astres, nuées. Que cela se rassemble et ne bouge plus, que l'oiseau arrête son vol et les eaux leur élan, que la parole ne parle plus, qu'elle revienne au silence, que la pensée ne pense plus, qu'elle s'achève en stupeur, que tout se taise et se suspende dans l'attente, que tout s'exhale en un unique poème qui soit le parfum des mondes et des temps enfin consommés, enfin accomplis, puis que, brusquement, dans la fosse du ciel noir, tombe et roule la tête rose du jour. » Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie » inspirant tous mes récits.
Radio Présence à Millau, 106.5.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Alors l'image de l'assureur, elle a, semble-t-il, pas mal souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, l'image de l'assureur est en train de remonter doucement.
Cet Internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux États-Unis et 200 millions en France.
La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui chaque année nous honorent d'un nouvel ouvrage.
Bon, ça y est, nous avons décidé de faire notre deuxième enfant. Ça stresse un peu, car comment notre plus grand va le prendre ?
Le week-end dernier, je suis partie avec deux vieilles amies au cœur attentif et joyeux. Alors, je rentre toute pétaradante de liesse et remplie de ces partages.
On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien. Présence.
Through and empty,
Radio Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le Canada et la Chine tournent la page de leur brouille diplomatique. Le Premier ministre canadien est à Pékin où une nouvelle